France Culture.
Le parvis de la gare de l'Est est presque désert. On voit trois autocars, quelques personnes, mais finalement ne sont fixées sur l'image que les personnes qui sont restées fixes, qui n'ont pas bougé. Celles qui bougent trop vite même n'apparaissent pas à l'image, ou celles qui bougent un peu plus doucement sont floues, et on voit ce qu'on ressent finalement quand on va aujourd'hui aux abords de la gare de l'Est, un territoire assez désert, assez inhabité, presque hostile.
Vous entendez les pavés de la gare de l'Est. Il semblerait que ces pavés, comme les grilles qui entourent la gare de l'Est, elles soient restées. C'est peut-être aussi à cause de cette dimension de lieu de mémoire qu'est la gare de l'Est. Si vous regardez tous les premiers films, les films de la mobilisation du 2 août 14, vous voyez les familles contre les grilles. Vous voyez la foule contre les grilles et entre au compte-gouttes les appeler, enfin les rappeler, les mobiliser, qui vont aller prendre un train, rejoindre leur caserne, leur affectation, être habillés, c'est-à-dire mis en uniforme, reprendre leur paquetage et partir au front.
Les femmes, les civils n'ont pas été autorisées à rentrer à l'intérieur de la gare, ni même à pénétrer dans la grande cour sur le parvis qui mène vers les portes de la gare. Donc, en fait, les femmes, les enfants ont été tenus à l'extérieur et les adieux ont été faits devant ces grilles, sur les boulevards, boulevard de Strasbourg, devant les brasseries, en fait, qui sont devant la gare elle-même.
Gare de l'Est, aller et retour. Une émission de Christine Le Cerf et Franck Lilin.
Sur une idée d'Adam Biraud.
Alors que partout ailleurs, évidemment, se sont déroulées des scènes de départ, des scènes d'adieu, que la mobilisation a été évidemment générale, que d'autres gares, à Paris par exemple, la gare du Nord a été un grand lieu aussi de transit d'organisation de la mobilisation, mais dans l'imaginaire collectif, c'est la gare de l'Est qui a en quelque sorte concentrer cette mémoire du grand départ vers quelque chose qui est inconnu, une sorte de lieu névralgique de l'histoire de la Première Guerre mondiale.
Et donc toutes ces images qu'on a, images animées, photos, des couples qui s'embrassent, qui se pressent à ces grilles et qui pendant toute la Grande Guerre vont rester à l'extérieur des grilles à attendre l'arrivée des soldats, puisque seuls les soldats peuvent entrer, c'est resté une telle coupure que c'est sans doute pour cela que nous avons encore aujourd'hui les fameux pavés de la gare de l'Est et leurs grilles.
C'est-à-dire cette gare de l'Est fait que dans l'imaginaire national, la gare de l'Est est devenue le lieu central de la mémoire des guerres du 19e siècle, de la Première Guerre mondiale, puis plus tard de la Seconde.
Deuxième épisode, la gare des guerres.
Je m'appelle Patrice Amarger, j'ai la passion de l'histoire, et si j'ai écrit un livre sur la gare de l'Est, c'est que mon grand-père, non content d'habiter sur la ligne de l'Est, travaillait au bureau de l'Octroi, à la gare de l'Est. En 1914, lorsque la guerre éclate, la gare de l'Est devient, du jour au lendemain, une gare militaire. C'est, avec la gare du Nord, c'est une des deux gares où nos armées partent vers la frontière pour arrêter l'envahisseur allemand. Et du coup, c'est l'armée qui prend en main le fonctionnement de la gare. Elle le prend d'autant plus en main qu'elle a de très mauvais souvenirs de la guerre précédente, 1870, car la gare de l'Est était déjà à l'époque lieu de départ des troupes vers l'Est. Dès la prise en main de la gare de l'Est par l'armée, 10 lignes de chemin de fer sont affectées uniquement aux opérations militaires. Il faut savoir qu'il y a près de 3 millions de réservistes qui partent de tous les coins de la France pour aller vers les gares du Nord et de l'Est et rejoindre le front. Au total, pour mobiliser ces réservistes dans tout le pays, on va utiliser quelques 10 000 trains et 5 000 pour concentrer les troupes en direction du front.
Alors, je suis Odile Roinette, je suis née à Montcy-Notre-Dame, donc c'est tout près de Charleville-Mézières, donc dans l'Est, près de la frontière belge. Je suis historienne de la Première Guerre mondiale. La gare de l'Est est devenue la gare des guerres à partir de 1870-71, où elle était déjà un lieu extrêmement important dans la mesure où elle a été transformée, en fait, à cause du siège. Il n'y a pas de départ, il n'y a pas d'arrivée, mais à cause du siège de Paris, elle est transformée en une immense ambulance, en fait. Donc elle se charge de cette mémoire-là. Puis, en 1914-18, elle devient le symbole de cette guerre, beaucoup plus finalement que la gare du Nord, qui est l'autre grande gare de départ et d'arrivée des mobilisés, parce que très probablement elle est liée à cette question des provinces perdues, avec la perte, comme on le sait, hein, de l'Alsace et de la Moselle, et de cette relation entre l'arrière et le front de l'Est.
Chez moi, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme dans toutes les familles. La mère avait un peu plus d'appréhension que le père. Le père disait, mais qu'est-ce que tu veux, mon petit, il faut y aller. La mère disait, c'est malheureux, c'est ici, c'est là. Mais enfin, en réalité, c'était pas une appréhension qui vraiment pouvait décourager celui qui devait partir.
Les Parisiens, comme tous les Européens, ont été pris par surprise par la mobilisation. Les premiers mobilisés qu'on voit arriver à la gare de l'Est, bah évidemment, c'est ceux qui sont le plus proches, donc des Parisiens qui arrivent en civil. Et puis, dans les jours suivants, on voit arriver les provinciaux avec leurs bel uniformes bleus, leurs casquettes rouges, leurs pantalons rouges. Bon, on a beaucoup parlé du départ de la fleur au fusil. C'est pas complètement faux, mais en fait, la plupart des gens se rendraient bien compte qu'on rentrait dans quelque chose d'inconnu. Et les plus âgés, eux, ils se souvenaient de 1870. Donc en fait, l'ambiance, elle est plutôt, même en dépit des coups de clairon à droite à gauche, elle est plutôt grave, elle est plutôt tendue. Et les gens qui versent une larme dans leur mouchoir derrière les grilles du parvis en voyant partir leur mari, leur frère, leur fils, ils étaient nombreux.
Le 2 août 1914, à 0h, j'étais dans un train qui était parti la veille au soir de la gare de l'Est et qui me menait à Verdun, où je devais rejoindre le 164e régiment d'infanterie.
Alors là, nous sommes le 2 août 1914 à la gare de l'Est. Il s'agit d'un ensemble de photos qui ont été en fait réalisées par un photographe professionnel qui s'appelle Jacques Moreau. C'est un journaliste professionnel qui en fait a parcouru le quartier des gares parisiennes le jour et les jours qui ont suivi de la mobilisation, donc le 1er et le 2 août, et qui saisit en fait l'immense émotion qui étreint en fait les hommes, les femmes, les enfants qui ont accompagné en fait ces hommes jusqu'à la gare. La gare étant, d'une certaine manière, un lieu de passage entre deux mondes. Entre la paix et la guerre, c'est un lieu qui forme un seuil, en fait. Entre ces deux temps, le temps de paix et le temps de guerre, le monde d'avant et celui qu'ils vont être amenés à découvrir. C'est aussi le lieu des adieux. Et Jacques Moreau a fait deux photographies qui ont été particulièrement commentées par les historiens parce qu'elles sont extrêmement d'abord bouleversantes. On voit une famille, un homme, une femme qui s'étreignent avec un tout jeune enfant dans les bras, qui se disent au revoir. Et l'homme ne semble pas manifester une émotion particulière. Plus exactement, il est probablement en train de réprimer l'émotion qu'il ressent. Et quelques instants après, Jacques Moreau fait une deuxième photo où on voit cet homme qui s'arrache en fait de l'étreinte du couple et de l'enfant et qui pleure. C'est une photo assez exceptionnelle parce que, au fond, les gares, la gare de l'Est en particulier, c'est un lieu qui met en évidence la frontière, en théorie étanche, entre la vie privée et la vie publique. La vie privée où l'on est censé exprimer ses émotions et la vie publique où au contraire les hommes sont éduqués à réprimer leurs émotions en public. Et la gare est justement ce lieu où ceux qui s'y retrouvent, du fait de l'arrachement qui va leur être imposé, sont amenés à exprimer des émotions en public qu'ils n'auraient pas exprimées autrement.
La mobilisation, c'est le départ des troupes. Mais dans une guerre qui va durer, il va y avoir des arrivées et des retours. Et les premières arrivées, ben, ce sont tout simplement des réfugiés qui s'enfuient, qui quittent la zone des combats en Alsace-Lorraine, de même que la gare du Nord voit arriver des Belges, des gens du nord de la France. Et puis très vite, derrière les réfugiés, ben, on voit arriver les blessés. Puisque les combats sont très violents, et le nombre de blessés a dépassé tout ce que l'état-major pouvait imaginer. Donc on voit arriver en gare des civières, des gens amputés, des gens bandés de toutes sortes de façons. Et puis, puisque la guerre devait être courte, ça c'était la certitude partagée par tous les belligérants, personne n'avait pensé à donner des permissions aux soldats. Ils vont partir 3 mois, 6 mois, ils vont rentrer. En 1915, on s'est aperçu que ça allait être un peu plus long que prévu, et on a introduit tout un système de permissions. Et du coup, les gares du Nord comme de l'Est ont vu défiler des milliers et des milliers de permissionnaires. Alors ces permissionnaires, ils n'arrivaient pas toujours très frais à la gare.
Je pense que la société française ne s'est jamais remise de cette Première Guerre mondiale.
Je m'appelle Marie-Noëlle Polineau, je suis référente patrimoine et mémoire à la SNCF.
Et elle hante. Oui, elle est comme un fantôme.
Ce qui est particulier avec la gare de l'Est, c'est le soin avec lequel, dans les années 20, on a voulu en faire un lieu de mémoire. C'est-à-dire par la dénomination de la place, par la dénomination des rues, par le fait que on a voulu coiffer le deuxième pavillon de Verdun. On aurait pu mettre toute autre ville, hein. On avait Paris-Strasbourg, on a mis Verdun. Pourquoi Verdun ? Et le fait aussi de la présence, depuis 1926, du tableau de Herter, qui est vraiment unique, qui est vraiment quelque chose qu'on a nulle part dans une gare, et même ailleurs en France. Il est quand même rare de voir un tableau encadré dans une gare et qui plus est un tableau signé. Ce tableau est signé en lettres majuscules Albert Herter, 1926. Ce tableau est unique. Il est vraiment unique, il est immense, il fait 60 mètres carrés. Il a été peint à plat dans les salles 19e siècle du château de Versailles qu'on avait prêté au peintre. Alors quand on regarde ce tableau, on a un véritable portrait de son fils qui s'inscrit dans l'une des vitres de la voiture à droite, qui dessine le V de la victoire avec une fleur au fusil dont on ne voit pas très bien les traits et dont les traits sont en train de s'effacer parce qu'il est mort.
C'est une sorte de peinture de l'après-coup en fait. C'est-à-dire où le peintre revient sur ce mythe de la fleur au fusil, non pas pour critiquer l'enthousiasme patriotique ou plus exactement la détermination à rejoindre la guerre qui a été celle de son fils et celle des soldats français ou alliés qui ont participé au combat, mais pour signifier tout le poids. C'est un tableau sur le deuil.
Donc on a cette image du deuil de la famille Herter, mais si on regarde de plus près, on a des ouvriers, on a des paysans, on a des étudiants, et c'est cette sorte de communion dans le deuil qu'a voulu donner à voir le peintre dans une couleur bleue, qui est la couleur d'origine, dans un sentiment plutôt à la fois doux et triste.
C'est un tableau qui dit que aussi la gare est la guerre, en fait. La gare est la guerre. Elle est susceptible, en fait, de réunir en une unité de temps et de lieu tous les enjeux et les immenses affects qui ont été mobilisés justement dans cette expérience, l'expérience de la séparation, de la mort de masse, de la blessure. Et tout ça, en fait, est réuni dans ce tableau. Et c'est pour ça que je pense qu'il est pour nous une... Il est très présent et il contribue à faire de la gare de l'Est la gare des guerres.
Nina Berberova, vous avez quitté l'URSS dans les années 20, en 1922 très exactement, quand poètes et intellectuels ont commencé à être persécutés par le stalinisme.
C'était pas encore le stalinisme à ce temps-là, c'était plutôt le léninisme. Lénine mourut en 24, nous sommes partis en 22, la pression commençait. Gorky est parti 6 mois d'avance, en automne de 21. Quand les premiers mis à mort, oui, on peut dire ça, mis à mort, ont commencé. Un grand poète a été fusillé, 62 personnes dans un groupe, dont 16 femmes. Tout ça, ça sentait vraiment le tragique, le sérieux. Alors, on est parti. Jamais nous ne pensions que nous restions pour toujours.
Je suis Antoine Marès, mes grands-parents étaient de 4 nationalités différentes. Mon père est arrivé en France de sa Bohême natale à l'automne 1937 par la gare de l'Est. Pour ma part, je suis né dans les Vosges, dans une famille paternelle et maternelle profondément éprouvée par l'ensemble des guerres du XXe siècle, ce qui explique en partie mon parcours d'historien de l'Europe centrale et médiane. La révolution russe est évidemment décisive dans la reconfiguration des frontières de l'Europe. Tous ceux qui fuient la révolution bolchévique, en résumé l'émigration politique, mais aussi intellectuelle et militaire russe, arrivent de l'Est après 1918 en France et souvent à Paris, gare de l'Est.
Effectivement, beaucoup de Russes sont arrivés par la gare de l'Est. Et ceux qui sont arrivés par la gare de l'Est, ce sont beaucoup des personnes qui ont traversé l'Europe en train et qui sont venus depuis la Pologne, qui ont traversé l'Allemagne, d'autres qui sont passés par Prague ou par Vienne et qui sont donc arrivés à Paris par la gare de l'Est. Ça a été une des grandes routes de la migration russe.
J'ai pensé aussi à ceux qui arrivent à la gare de l'Est en venant de plus loin, c'est-à-dire de Turquie, parce qu'il y a aussi toute une émigration russe qui passe par la Turquie. Donc ce sont des gens qui ont fui, alors c'est le cas d'ailleurs d'une partie de ma famille, ceux qui ont fui à travers la Crimée avec les armées du général Wrangel, les dernières armées blanches qui quittent donc la Crimée en 1920, qui arrivent en Turquie. Et donc forcément, parmi ces gens, il y en a qui ont pris le train d'Istanbul pour arriver à la gare de l'Est.
Nous avons été d'abord à Leningrad, enfin Petrograd à ce moment-là encore, ce dont je ne me souviens pas, ensuite en Crimée, ensuite de Crimée, nous sommes revenus à Pétersbourg. Donc c'était une vie un peu mouvementée. En 1925, nous avons quitté la Russie, donc un milieu où nous étions quand même assez intégrés, puisqu'il y avait la famille, il y avait tous les amis d'enfance de ma mère et leurs enfants. Et nous débarquons à Paris, dans un milieu d'émigrés, qui était un milieu beaucoup plus hétéroclite sur le plan social, et ensuite un milieu qui était déjà un milieu d'étrangers, et donc un peu de paria. Alors, à l'âge de 9 ou 10 ans, c'est une expérience qui est un peu choquante, un peu humiliante.
Alors, Zoé Oldenburg, bien sûr, j'avais lu ses mémoires. Elle-même est arrivée, effectivement, à Paris très jeune, en 1925. Cette mémoire d'une très très grande rupture qui finalement traverse les générations, puisque finalement ce sentiment d'être réfugié, c'est un sentiment qui m'a habité depuis l'enfance, alors même que je suis née à Paris, que mon père est né à Paris, de parents réfugiés, après la guerre civile et la révolution russe. Je m'appelle Catherine Gousseff. Je suis historienne, chercheuse au CNRS, et je suis spécialiste de la question des migrations contraintes, forcées, dans l'espace soviétique et est-européen au XXe siècle. Mais on pourrait citer, bien sûr, beaucoup d'autres personnes. On pourrait citer Marina Tsvetaeva, qui est bien sûr cette poétesse qui est une grande dame de la poésie russe avec Anna Akhmatova, mais qui, contrairement à Anna Akhmatova, qui n'a pas quitté la Russie, donc Tsvetaeva est partie, a fait donc tout ce grand périple, elle a vécu à Prague, elle a vécu à Paris, et puis finalement, elle est rentrée ou venue en Union soviétique tout à fait à la fin des années 30.
Elle arrive à Paris à l'automne 1925, de Prague par le train, donc à la gare de l'Est. Ensuite, elle logera dans un premier temps encore plus au nord et à l'est de la gare, c'est-à-dire près du canal de l'Ourcq, qui à l'époque est situé près des abattoirs, donc un quartier plutôt sinistre. Et voilà ce qu'elle dit. Alors, c'est assez pathétique la façon dont elle décrit son premier logement à Paris. Le quartier où nous habitons est affreux, comme directement sorti du roman de boulevard Les taudis londoniens. Un canal avec de l'eau croupie, pas moyen d'apercevoir le ciel à cause des cheminées, de la suie et du bruit sans fin. Nulle part au sortir se promener, pas le moindre arbuste. Il y a un parc, mais 40 minutes de marche dans le froid, c'est infaisable. Alors nous nous promenons le long du canal putride. Je m'appelle Luba Jorgensen, je suis née à Moscou en 1958, dans une famille juive, mais aussi un peu estonienne. Et j'ai immigré en 1975. Je suis écrivain et je suis professeur de littérature russe au sein du centre d'études sur l'Europe orientale, balkanique et médiane. En fait, le destin de Tsvetaeva est particulièrement tragique, puisqu'il se termine par ce retour qui signifie en fait la destruction de toute la famille. Donc c'est peut-être un des destins les plus tragiques de cette émigration, dont beaucoup de membres vivent dans une très grande précarité. Mais c'est une émigration qui n'est pas non plus homogène.
On peut penser à toute une série d'écrivains, par exemple Irène Némirovski, Henri Troya, bien sûr. On peut citer aussi finalement les ballets d'Diaghilev, mais dans la deuxième version, puisque les ballets d'Diaghilev étaient déjà connus avant la Révolution. Donc il y a cette émigration d'élite. Et puis il y a des écrivains que j'aime beaucoup, mais qui sont peut-être pas les plus représentatifs de cette grande vague d'émigration de l'entre-deux-guerres, à savoir par exemple Joseph Kessel, mais qui est en réalité arrivé bien avant, et qui a été par contre un merveilleux écrivain de l'émigration, et je pense en particulier à son livre Nuit de Prince, qui décrit très bien ce milieu les années 20 qui ont été caractérisées, il faut le rappeler, à Paris par une mode russe. Cette mode russe que l'on retrouve à travers la vie des cabarets, les cigarettes, les vêtements, la grande couture russe.
C'est difficile de se rendre compte aujourd'hui de la façon dont ce Paris était perçu à l'époque. Par exemple, Gaïto Gazdanov, c'est un écrivain qui, pour gagner sa vie, comme beaucoup de Russes dits blancs, était chauffeur de taxi. Et de cette expérience, il a tiré tout un Paris nocturne, notamment, je pense, à son livre « Chemin nocturne ». Il raconte la vie nocturne à Paris, où d'ailleurs souvent il stationnait à proximité des gares pour prendre des voyageurs qui arrivaient ou qui allaient partir. C'est toute une géographie intime vécue par ces écrivains.
Il y a beaucoup de témoignages et de caricatures d'ailleurs dans les journaux russes, parce qu'il y a évidemment beaucoup de Russes qui travaillaient déjà comme chauffeurs de taxi ou qui travaillaient à la gare de l'Est pour porter les bagages. Et donc, il y a ces représentations satiriques de Russes qui débarquent à la gare de l'Est et qui finalement ne sont accueillis que par des Russes.
Et puis, il y a un flux continu d'artistes et d'intellectuels, souvent d'origine juive, venus des confins de la Russie et de l'ensemble de l'Europe médiane, avec les photographes hongrois, grandes figures de la photographie de l'entre-deux-guerres, André Kertész, Brassai, etc. Les artistes polonais ou roumains, des intellectuels comme Tristan Tzara, un des pères du dadaïsme, Eugène Ionesco. Donc là encore, comme pour l'avant-guerre, l'entre-deux-guerres de l'art, des intellectuels ne se concevraient pas sans cette présence de tous ces étrangers de l'Europe centrale et de l'Europe médiane.
Paris, le 29 février 1924. Me voici enfin à Paris. Ma chambre provisoire, d'où je vous écris cette lettre, se trouve au 6e étage d'un hôtel. En me réveillant ce matin, j'ai aperçu le sommet de la tour Eiffel, émergeant du brouillard et de la forêt des immeubles. Notre train est entré à la gare de l'Est à 9h30 ce matin. Nous avons loué un taxi à plusieurs, et c'est ainsi que je suis arrivée rue de l'Ambre pour tirer mon ami Tyranny de son sommeil nocturne. Pour 8 francs par jour, j'habite le même hôtel, mais 2 étages plus haut. Ma malle est toujours à la gare, et elle y restera tant que je ne trouverai pas une chambre correcte. J'arpente les rues depuis 2 jours, sans grand résultat pour l'instant, à part quelques promesses ici ou là. Je m'appelle Clara Royer. Je suis née dans une famille assez française, avec toutefois la particularité d'une branche maternelle qui venait de l'Est, en tout cas de l'Empire austro-hongrois. Je suis professeure spécialiste de culture d'Europe centrale. Par ailleurs, je suis aussi scénariste et écrivaine. Brassai, c'est vraiment fascinant son séjour à Paris parce que c'est là où il va abandonner l'idée d'être peintre et devenir photographe. Et le désir de la photographie vient de son désir de photographier Paris la nuit. C'est ce Paris-là qui est mythique. C'est celui-là qui est extraordinaire. C'est pas le Paris des hôtels particuliers ou de la rue de Rivoli. C'est le Paris tel qu'il est vécu, traversé et souffert aussi par ces étrangers.
Je m'appelle Adam Biro, en hongrois Biro Adam. Je suis né en septembre 1941 à Budapest, capitale de la Hongrie. Je suis arrivé en France le jour de Noël 1956 à la gare de l'Est. C'est une question que je me suis posée. Au fond, pourquoi des photographes hongrois? Pourquoi pas tchèques, polonais, russes? C'est assez étrange. Quand vous regardez l'histoire de la photographie au XXe siècle, mais je ne sais pas, le quart vient de Hongrie, d'un pays de 10 millions d'habitants. André Kertész, Brassai n'a pas de prénom parce que son nom c'était Horáth Gyula, donc il a pris le nom de Brassai parce qu'il venait de la ville de Brasov, de Brassa. Kappa, qui s'appelait Friedman, qui a choisi ce nom, il paraîtrait parce que Tsapa en hongrois, ça dit requin. Mais il y avait Munkácsi, dont se réclame Cartier-Bresson. Cartier-Bresson a dit « Je suis devenu photographe à cause de cette photo faite par un Hongrois. Écoutez, j'ai roulé en voiture avec Doano, immense photographe. Il pleuvait. Il me dit « Regardez, monsieur Adam, les pavés mouillés. Je les vois depuis que j'ai vu les photos de Brassai. Moi qui suis né ici, je ne les ai jamais vus. C'est Brassai qui m'a montré, c'est pas vous. C'est intéressant dans Paris de nuit. » C'est qu'ils ont apporté d'abord un œil neuf, un œil étranger. Kertész, il voit Paris, et Brassai, Paris de nuit. L'œil de Paris, totalement.
J'ai trouvé Paris, la France et Montparnasse un vrai paradis. Parce que la vie était magnifique. Libre et bon marché. Et puis on était jeunes, on ne savait pas ce que c'est que la misère et la pauvreté. Et on s'est logé très facilement dans n'importe où.
Shana Orloff a été une artiste centrale.
Naturellement, j'ai tout de suite commencé à travailler d'après modèle, mais en le stylisant. Mais mon but était, et je ne sais pas si je l'ai réussi, c'est de faire l'époque. Ce que les cubistes n'ont pas voulu faire du tout, n'est-ce pas? Je voulais faire l'époque. Alors, pour le début, c'était très dur. Et j'ai même reçu des lettres de menaces de mort si je continuais cette structure. Et j'ai continué.
Ce qui est intéressant dans les années 20, c'est qu'on a à la fois la génération des artistes qui est arrivée avant la guerre de 14. Eux, ils vont accéder à une certaine notoriété. C'est le cas, par exemple, de Soutine, qui en 23 est un artiste absolument reconnu. C'est le cas également de Chagall. C'est également le cas d'une artiste sculptrice qui s'appelle Shana Orloff, et qui, elle aussi, est venue. Alors, elle, pas directement depuis la Russie, mais elle avait fait transit en Palestine. Mais on a une deuxième vague à ce moment-là d'immigrés qui arrivent de l'Est, très importante, hein, voire sur le plan numérique, beaucoup plus importante que la vague d'immigration avant la guerre de 14. C'est ce qu'on va appeler ensuite l'école de Paris de manière très large. Je m'appelle Pascale Samuel, je suis conservatrice pour l'art moderne et contemporain au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Alors pour ces artistes qui sont effectivement relativement nombreux à ce moment-là, il y a dès 1923 une montée de la xénophobie. La volonté de rejeter finalement à la périphérie cet art, souvent jugé moderne, par des artistes qui venaient d'ailleurs. Et c'est dans ce contexte que naît le terme d'école de Paris, qui est une désignation d'André Varnaud, qui est là justement pour rappeler le rôle et l'importance de ces artistes venus de l'étranger. Ces artistes, certes, ne sont pas français, mais ils font la sève, l'effervescence de la scène artistique parisienne. Ils sont l'école de Paris, à la différence d'être l'école française, ils sont l'école de Paris. Voilà.
Et tout cela se déroulant sur un fond de xénophobie et d'antisémitisme croissant dans les années 30. C'est à ce moment-là que l'on a des flux importants en provenance de l'Est et de l'Europe médiane, parce que les régimes ne cessent de se durcir, en Allemagne, en Autriche, mais aussi en Pologne, en Hongrie et en Yougoslavie, d'où une demande croissante de deux types de réfugiés, des juifs en but à l'antisémitisme, et puis, autre catégorie, des militants de gauche, tout simplement, poursuivis pour leurs idées.
Dans les récits, dans les témoignages qui nous sont laissés par tous ces destins, la notion clé, c'est la notion de frontière. La gare de l'Est, c'est un sas. C'est là où on s'immerge tout un coup dans ce pays d'accueil, dans ce refuge, dans cet espoir, dans ce mythe. La gare de l'Est est pour les réfugiés, c'est là où ils traversent la frontière, c'est là où une nouvelle vie commence, c'est le tournant de leur vie, descendre du train, avoir l'espoir qu'enfin l'accueil, l'intégration soit possible. C'est un espoir durement déçu par la suite.
Et en fait, tous ces bouleversements ont pour effet des exils, des mouvements d'émigration qui vont essaimer à travers toute l'Europe. Et la gare de l'Est sera un des lieux, un des pôles recueillant ces populations en mouvement, en déplacement, en fuite.
Immigranten. Das heißt doch Auswanderer. Aber wir wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluss, wählend ein anderes Land. J'ai toujours trouvé fou le nom qu'on nous donnait, immigrant. Le mot veut dire expatrié. Mais nous ne sommes pas partis de notre gré pour librement choisir une autre terre. Wanderten wir doch auch nicht ein in ein Land, dort zu bleiben. Womöglich für immer, sondern wir flohen. Nous n'avons pas quitté notre pays pour vivre ailleurs, toujours s'il se pouvait. Au contraire, nous avons fui. Vertriebene sind wir, Verbannte. Und kein Heim, ein Exil soll das Land sein, das uns da aufnahm. Nous sommes expulsés, nous sommes des proscrits. Et le pays qui nous reçut ne sera pas un foyer, mais l'exil. Je m'appelle Dorothea Bonnekamp, je suis née en Rhénanie du Nord-Westphalie. Je suis historienne de formation, spécialiste de l'histoire de l'Allemagne et plus particulièrement de l'exil juif en France. Hitler est nommé chancelier du Reich. Le lendemain, les arrestations commencent. Les intellectuels, souvent juifs, les plus menacés, essaye de quitter le pays. Une grande partie de l'élite intellectuelle, souvent juive, prend les chemins de la fuite, dans une improvisation, dans le chaos le plus total. Ceux qui n'ont pas la chance de s'enfuir seront déjà souvent arrêtés, déportés, torturés à mort, d'emblée. De nombreux immigrants, réfugiés, vont partir vers la France. La France, on l'a vu, est accessible en raison de ces deux gares. La gare de l'Est, bien sûr. Il y a la ligne directe entre Paris et Berlin. Paris devient donc un véritable centre de l'exil allemand. Alors, un destin emblématique de réfugiés juifs, allemands, plutôt autrichiens, est celui de l'écrivain et journaliste Josef Roth, qui lui va venir deux fois à Paris en venant de Berlin, de par le train. Une première fois, il s'établit à Paris en tant que correspondant germanophone, allemand-autrichien, de la fameuse Frankfurter Zeitung, le journal de Francfort, un voyage heureux, plein d'espoir. Une deuxième fois, il revient le lendemain de la nomination d'Hitler à la chancellerie allemande, donc le 31 janvier 1933. Il reprend le train. Il va avoir un destin tragique à Paris, où il vivra totalement désargenté, alcoolique. Il passera ses journées au café, au tournant, en face du Sénat, où il va consommer tellement d'absinthe qu'il va finir par en mourir.
J'ai quitté l'Allemagne subitement parce que j'appartenais à un groupe d'étudiants qui combattait le fascisme. Et j'avais photographié quelques-uns de mes camarades battus presque à mort. Et ça, c'était les premières photos qu'on a publiées à l'étranger quand je suis arrivé à Paris pour montrer ce qui se passait en Allemagne.
La résistance au fascisme, au nazisme, se structure en 1933 à Paris. On les appelle les Tarnschriften, les écrits camouflés dès 1933, édités à Paris. Et de nombreux écrivains en exil vont essayer de faire passer leurs écrits en Allemagne, certainement le plus souvent à partir de la gare de l'Est, hein, dans des emballages, dans des petits sachets de graines. Hein, c'est ainsi que des écrits de Bertolt Brecht, de Heinrich Mann, d'Anna Seghers vont circuler. Et parmi les émigrants qui viennent s'installer à Paris, beaucoup de gens ont connu les Heinrich Mann, Kurt Tucholsky, Walter Benjamin, Leon Feuchtwanger, Alfred Döblin. Les moins connus, comme par exemple Gisèle Freund, qui n'est pas encore la photographe qu'on connaît, qui arrive, gare de l'Est, munie de son petit appareil photo.
Parce que je suis arrivé à Paris avec une petite valise qui pesait 2 kilos et mon Leica. Et j'appartiens à une génération qui n'a pas appris la photo. Ni Doisneau, ni Cartier-Bresson, ni Brassailles, ni toute cette génération a appris. Parce que nous étions aussi des reporters photographes. On photographie ce qu'on voit. C'est vrai. Si vous voulez devenir reporter photographe, vous n'avez pas besoin d'aller dans une école. Vous n'avez qu'à ouvrir vos yeux.
De nombreux immigrés allemands vont peindre, dessiner, écrire, photographier. C'est aussi Laure Krug, dont on découvre les photographies totalement par hasard, il y a quelques années, cachées sous un canapé berlinois. Mais il y a aussi d'autres photographes qui arrivent à Paris et qui vont s'initier à la photographie à Paris, comme l'immense photographe de mode Erwin Blumenfeld ou encore Fred Stein, qui parfois vont faire développer de magnifiques fresques de Paris. Autre manière de rendre grâce, de remercier cette ville mythique pour son accueil. Ensuite, deux autres vagues vont suivre. C'est bien sûr en 35 les lois de Nuremberg. Et enfin, c'est l'apogée de l'horreur, 38, la nuit de cristal, où il devient de plus en plus compliqué de quitter le pays.
Je m'appelle George Arthur Goldschmidt, je suis né le 2 mai 1928, près de Hambourg, dans la banlieue de Hambourg. Nous sommes famille protestante d'origine juive et concernée par les lois hitlériennes de 1933. Et je suis arrivé en France en 1939. J'avais 11 ans. Le départ, c'était le 18 mai 1938. Et je me rappelle, mes parents nous ont amenés à la petite gare de banlieue. Et je sais exactement, je connais par cœur le trajet de ce petit village à Hambourg. Et dans l'immense gare de Hambourg, mes parents se sont trompés de quai. Et j'ai vu que le bas de ma mère était déchiré, parce qu'elle courait devant nous, affolée comme toujours. Nous sommes arrivés au dernier quai, où partait le train pour Munich. Et je vois encore mon père enlever son chapeau et ma mère nous faire signe une dernière fois. Cette immense gare, qui est une gare arrondie gigantesque, c'est où elle est 9, où elle est 14, je sais tout. C'est très curieux. L'espèce de fixation infantile pour ne pas être malheureux. Hein. La géographie contre le malheur, ça. Tac, cette coupure fondamentale est toujours en moi. Là. Le franchissement de frontières est constitutif. Là. Je voudrais m'en débarrasser, mais je ne peux pas. Hein. L'exil est... Au fond, je me vois toujours prendre ma petite valise et être expulsé.
bien évidemment, les événements qui se précipitent à partir de 1938 provoquent à la fois des déceptions énormes et des flux de population. L'invasion de l'Autriche par la Wehrmacht le 12 mars 1938, la signature des accords de Munich le 30 septembre 1938, l'invasion allemande des pays tchèques le 15 mars 1939, la ruine de la Tchécoslovaquie, la défaite de la Pologne fin septembre 1939, tout cela va abonder les flux de réfugiés vers la France. Et on peut dire que dans la foulée de ces événements, Paris Lumière va devenir peu à peu Paris Ombre. Avec la Première Guerre mondiale, bien évidemment, la gare de l'Est devient la gare des guerres. Et c'est aussi la même chose avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, guerre très courte pour la France, 1939-1940.
Et la gare de l'Est va revivre ce qu'elle a vécu en 1914. Ce qu'elle a vécu en encore plus grave. S'il y a eu quelques fleurs au fusil en 1914, il n'y en a plus du tout en 1939. Là, c'est la mobilisation générale. Tout recommence. Toujours la même ambiance. Les familles derrière les grilles, le mouchoir à la main, disant adieu à leur mari, leur frère, leur... Et là, ben, la gare reprend en 1939 ce qu'elle a fait en 1914. On part vers le front. Et on voit arriver... comme en 14 aussi, dans l'autre sens, des réfugiés de l'Est. Pendant quelques mois, c'est la grosse drôle de guerre, il se passe pas grand-chose, les permissionnaires vont et viennent. Et puis, le 22 juin 1940, l'armistice est signé, les Allemands arrivent à Paris, les Allemands occupent Paris, les Allemands couvrent Paris de leurs oriflammes, et les Allemands vont donc s'installer pendant toute la durée de l'occupation dans des gares comme la gare de l'Est. Et en fait, ce sont eux qui vont contrôler le fonctionnement de la gare et du réseau de l'Est. Une fois dans la gare de l'Est, les Allemands ne se sont pas contentés d'occuper les bureaux, les postes de commandement, etc. Comme les Français avaient commencé à y construire ce qu'on peut appeler un bunker, un abri fortifié, les Allemands ont achevé et ont occupé cet abri pendant toute la durée de l'occupation.
Et à ce moment-là, évidemment, Paris n'est plus un lieu d'accueil. Paris perd ce statut de capitale des libertés qu'il avait jusqu'à ce moment-là.
En 1940, c'est la panique, surtout pour les réfugiés juifs. Ils sont arrivés par la gare de l'Est, en croyant trouver dans la France, encore républicaine, un refuge. Ils repartent en 1940, sur les chemins de l'Exode. Ils cherchent à quitter à tout prix ce pays qui semble se refermer comme un piège sur eux. C'est la panique absolue.
On savait que les Allemands arrêtaient des gens et les déportaient à l'Est. Alors ça, tout le monde savait. De manière certaine mais imprécise, que les gens allaient être déportés à l'Est. Ça, tout le monde le savait, ça. Et la gare de l'Est, elle est porteuse de la mémoire de la Shoah, puisque les malheureux gens qu'on a déportés partaient en général des environs de la gare de l'Est, ou de la gare de l'Est même. Hein. C'est-à-dire, je suppose...
Est-ce que la gare de l'Est a joué un rôle dans la déportation ? Marginalement, comme toutes les grandes gares parisiennes, les déportations de juifs se faisaient à partir de camps de transit, Drancy, Compiègne, Beaune-la-Rolande, et donc pas des gares parisiennes. Ce qu'on voyait partir de la gare de l'Est, c'était essentiellement des prisonniers politiques, des résistants, qui n'étaient pas très nombreux, et que bien souvent, on installait dans des wagons cellulaires, que des wagons classiques grillagés, qu'on mettait en queue du train Paris-Berlin, par exemple. Donc tout ça restait relativement discret.
Ce sont des petits convois de déportation, avec une moyenne de 50 personnes. Le but, c'est pas non plus que la population qui passe quotidiennement en gare de l'Est voit ces va-et-vient de déportés. Les gens sortent de prison, ils sont pour beaucoup là entourés d'Allemands, évidemment, et menottés. Et ce sont des détenus qu'on amène, généralement, quand les services le peuvent, tôt le matin ou en fin de journée.
Je m'appelle Thomas Fontaine, je suis... historien, et depuis plusieurs années, je travaille sur l'histoire de la répression en France occupée et des déportations depuis la France. L'image qu'on a tous des déportations au départ de France, en Europe. C'est des images d'horreur du système concentrationnaire. Et ce sont ces fameux wagons à bestiaux qui ont emporté jusqu'à 50, 60, 80, 100 personnes entassées pendant des jours dans les wagons jusqu'à l'arrivée dans les camps de concentration nazis et les centres de mise à mort où les Juifs d'Europe ont été exterminés. Les départs de la gare de l'Est, ce sont des départs tout autres. Ce sont des wagons cellulaires qu'il faut qu'on ait en tête, dans lesquels étaient embarqués des détenus dans de tout autres conditions. Et nos mémoires l'ont totalement occulté. C'est une gare très importante de déportation dans le dispositif répressif, pas dans le cas des Juifs de France, mais dans le dispositif répressif naziste, une gare de départ en déportation très importante. Alors, le premier grand temps des déportations depuis la gare de l'Est, ce sont ce qu'on appelle les détenus carcéraux, c'est-à-dire ce sont des résistants, mais pas que, des victimes de la répression, des gens qui... à qui on a reproché une attitude anti-allemande, des gens qui ont refusé de rendre leur fusil de chasse. Et puis, c'est la fameuse politique nuit et brouillard. La gare de l'Est devient un des grands points de départ des détenus NN, qu'on n'appelle pas encore nuit et brouillard. NN, c'est le nomen nescio en latin, d'abord. Le NN, c'est celui qui n'a pas de nom, voilà, et qui donc part dans le plus grand secret. Et puis, un troisième temps très important dans l'utilisation de la gare de l'Est comme gare de déportation. À partir de la fin mai 1944, le 25 mai 1944, part un premier convoi de femmes résistantes et victimes de répression depuis la gare de l'Est. Et là, les Allemands décident d'organiser des convois tous les lundis, tous les jeudis. Toutes les semaines, ils font partir des femmes résistantes depuis la gare de l'Est. Elles sont emmenées juste de l'autre côté de la frontière mosellane, au camp de Sarrebruck-Neuilly-Brême, qui est, comme la gare de l'Est, un lieu, un camp qui a été totalement oublié de nos mémoires des déportations. C'est sans doute moins de 10 000 détenus, mais au regard des 65 000 détenus déportés, victimes de la répression en France occupée, c'est pas du tout une petite gare. C'est tout ce peuple de l'ombre, totalement sorti de nos mémoires. Toutes ces déportations, elles sont sorties de nos mémoires, elles ont été sorties et oubliées.
Au pied de l'escalier qui mène au bureau, sur le quai transversal, on a un peu la surprise de trouver un renfoncement fermé par une grille dans laquelle on voit des plaques commémoratives qui sont là en grand nombre, qui ne sont pas vraiment lisibles puisqu'on ne peut pas entrer. Et on a à l'extérieur quatre plaques qui relèvent, elles, de la Deuxième Guerre mondiale. On ouvre la crypte de façon assez étonnante lors d'un rituel, on peut dire, qui a été mis en place à chaque commémoration du 11 novembre et du 8 mai. Donc c'est une sorte de... À la fois on a créé un lieu du souvenir et le rituel qui s'y ajoute et qui permet aussi de consacrer, au sens propre du terme, la gare de l'Est comme un lieu de mémoire des deux conflits mondiaux. Ici, on a écrit sur les murs la mémoire de l'ensemble de l'Est, de toutes les personnes, les centaines de milliers de personnes qui sont passées par ici.
Bah, très curieusement, quand je passe à côté de la gare de l'Est, j'ai l'impression que c'est comme un peu une bulle dans Paris. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette gare de l'Est, elle n'est pas tout à fait... Il y a quelque chose d'un peu triste qui l'entoure. Je trouve qu'il y a comme un peu une césure autour d'elle.
avec les historiens et chercheurs Odile Roinette, Thomas Fontaine, Luba Jorgensen, Catherine Gousseff, Antoine Marès, Dorothea Bonnekamp, Clara Royer, Patrice Armager. Marie-Noëlle Paulineau, référente SNCF Patrimoine et Mémoire, Pascale Samuel, conservatrice au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. Et les passagers de la Gare de l'Est, Adam Biraud et Georges-Arthur Goldschmidt. Remerciements à SNCF, Cécile Boez, Jean-Philippe Chantecaille et Margot Michelin. Et à Cécile Auchard, Rail et Histoire, et Raphaël Spina, historien. Archivina, Mylène Touchet. Documentation, Anne-Lise Signoret. Prise de son, Benjamin Thuot, Éric Boissé, Virginie Lorda, Corentin Bailly et Claire Levasseur. Mixage, Hervé Dubreuil. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Sur une idée d'Adam Biraud, Gare de l'Est, aller et retour. Un documentaire de Christine Le Cerf, réalisé par Franck Lilin. Prochain épisode, derrière le rideau de fer.